Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Bienvenue dans ma forge. Comme vous le voyez, là ici on est au cœur des Monts d'Arrée. Plus qu'important pour moi, pour l'inspiration, tout ça, je traite beaucoup du sauvage en fait, hein, dans ce que je produis, dans ce que je forge. Et donc l'idée c'était vraiment d'être au cœur de mon inspiration, au cœur de là où je puise mes idées. Et ceci explique pourquoi est-ce que l'atelier, la forge est perdu au fin fond des Monts d'Arrée. Loin de toute ville et peut-être même de présence humaine.
Vous venez d'entendre Lorenz Fontaine, un jeune ferronnier qui a décidé de poser son marteau et son enclume à Brennilis dans une étable qui se prénomme aujourd'hui la Forge du Chêne.
Donc là, on est en fait dans une ancienne étable, c'est-à-dire que c'était pas une forge avant. C'est pour ça que on est dans un atelier, dans un espace plutôt intimiste. Hein. Je voulais vraiment un endroit dans lequel je me sente bien. Donc il y a une grosse partie rénovation. Hein. Et c'est vrai, on se croirait presque dans un salon, si je puis dire. En tout cas, ça arrive régulièrement avec les copains. Quand on se rencontre, ben, plutôt que de choisir la maison, on part dans l'atelier.
Oui.
Et ça me paraissait important parce qu'effectivement c'est l'endroit où je passe le plus clair de ma semaine et il fallait que je m'y sente bien. Donc j'ai trouvé ce bâtiment là, hein. Donc une ancienne étable, hein, relativement petit parce qu'en fait ça fait que 65 mètres carrés intérieur. Donc vraiment très petit pour une ferronnerie, il a fallu réfléchir intelligemment à quel outillage, où le placer, etc. etc. Et ma foi, ça fait un an que l'atelier est opérationnel, enfin un an, 6 mois. Et je pense que là, je commence à être pas mal, ouais. En termes d'optimisation, il n'y a quasiment plus rien à faire. Moi, je forge pas au charbon. Le métier a très peu évolué. Le bloc enclume-marteau est toujours là, lui, il restera toujours là. Par contre, les techniques pour chauffer l'acier, elles, ont légèrement changé et est apparu il y a finalement très peu de temps, à l'échelle de la sidérurgie, les forges à gaz. Donc c'est ce qu'on a en face de nous, là. Et donc moi, je forge avec ça.
Ouais, c'est la première réflexion que je me suis faite. Je m'attendais vraiment à une énorme cheminée avec un soufflet, etc.
Eh bien, oui. Ouais, ah, ben, les soufflets, enfin les forges et les ferronneries qui tournent au soufflet, ouais. De manière professionnelle, hein, j'entends, parce qu'il y a quand même une grande différence quoi, avec ça. Mais en pro, moi, je crois que j'en ai vu aucune, quoi. Des forges à charbon, on en voit encore beaucoup. Même si elles tournent de moins en moins, elles sont les entreprises qui forgent vraiment à l'année de plus en plus. Hein, c'est pur gaz. Le côté charbon, c'est sûr que ça a une âme. Hein, quand on a une forge, une ferronnerie avec une forge à charbon, effectivement, un énorme bloc qui crache une fumée noire et tout. Là, on sait qu'on est à la forge. Il n'y a pas de doute. Mais ici, c'est pas le cas.
Et donc, ce choix, c'est purement économique ou c'est aussi pratique ?
Non, c'est pratique. D'accord. C'est pratique parce qu'en fait, n'y a pas d'émanation de gaz toxique. Ça permet de pouvoir bosser dans un atelier fermé. Ça permet aussi d'épargner quelques nuisances aux voisins, avec la fumée noire dont je parlais jusqu'à l'instant. Et puis, se recharger en gaz, c'est relativement simple. Là, ça tourne au propane. Donc, si j'ai un imprévu, tout ça, même dans les Monts d'Arrée, je peux trouver une bouteille de propane à moins de 5 minutes. Donc,
Okay.
Donc c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Ouais.
Et où est-ce que vous fournissez justement pour avoir de l'acier brut pour pouvoir le travailler?
Ben moi, je travaille avec un négociant en produits sidérurgiques, l'entreprise Belmet, la société Belmet, qui elle-même fait partie du groupe Cofibel. Et donc, ce groupe-là travaille dans la négoce de matériaux depuis plus de 100 ans maintenant. Et en l'occurrence, eux et donc moi ne travaillons que des aciers européens. Parce que d'abord pour l'éthique, évidemment, ensuite pour l'écologie. Parce que du coup, c'est raffiné en Europe, donc il y a des normes européennes, etc. Et pour terminer, une meilleure qualité d'acier. Parce que c'est vrai que la Chine a investi vraiment tous les territoires, évidemment. Et dans le monde de la sidérurgie, plus d'un fer sur deux maintenant vient de Chine, même en France. Donc c'est un vrai choix de travailler avec des aciers européens. Et donc c'est livré en barre de 6 mètres. Donc il y a un camion porte-fer, comme on les appelle, qui vient deux fois par semaine livrer l'acier.
Comment on devient ferronnier?
De plusieurs façons possibles. Moi, j'en listerai trois. Donc, il y a les formations type CAP, très scolaires. Donc, on peut y trouver des choses vraiment intéressantes. Je ne connais pas trop les écoles, mais je sais qu'il peut y avoir beaucoup de qualité dedans. Moi, en l'occurrence, j'ai appris avec les Compagnons du Devoir et du Tour de France, donc pas en formation. J'ai vraiment appris le métier à l'atelier le samedi avec les Compagnons, en parlant beaucoup aussi, parce que moi, je suis convaincu que même des métiers manuels, des activités manuelles tout simplement, peuvent s'apprendre et se maîtriser quasiment juste à l'oral. Et enfin, j'en ai la preuve ici, hein, parce qu'on n'apprend pas à faire ça. Et pourtant, c'est la première que j'ai sortie et c'était le résultat est quand même pas mal. Mais c'est parce que j'y ai pensé pendant très longtemps. Et donc, ouais, donc j'ai appris le métier avec les Compagnons de Devoir, aussi par moi-même, en me replongeant dans des vieux bouquins écrits par des ferronniers au siècle dernier aussi. Ouais, la littérature a ce pouvoir, ouais. Et ensuite, la troisième, ben, c'est autodidacte. C'est en apprenant tout seul. Alors là, par contre, pour le coup, c'est la plus lente. C'est vraiment long. Il y a plein de techniques qu'on ne comprendra pas parce que, comme toute activité manuelle ou même intellectuelle, ben, être autodidacte, ça peut être compliqué pour vraiment saisir l'entièreté du métier. Mais c'est un des chemins possibles.
C'est quoi la différence entre un ferronnier et un forgeron?
Alors, le forgeron, historiquement, c'est un peu l'homme à tout faire du village. C'est celui qui réparait des outils et qui créait des outils. Par exemple, le soc de charrue, ou bien encore manche de casserole, que sais-je, ce genre de choses. Le ferronnier, c'est celui qui produit des ouvrages, qui forge des ouvrages appliqués au bâtiment en se servant de la forge. Et donc, bah voilà, ça c'est le ferronnier. Et ensuite, il y a le coutelier ou les taillandiers. Produit des objets tranchants avec les techniques de la forge. Et finalement, ces trois métiers sont assez peu pour eux. C'est vrai que bah, voilà, dans l'imaginaire collectif encore, hein, quand on est ferronnier, on est forgeron, quand on est forgeron, on est ferronnier. Et en réalité, c'est très différent. Et d'ailleurs, moi, si je dois poursuivre mon analyse, je pense que le métier de forgeron aujourd'hui est remplacé par le métier de métallier. Les métalliers, ils découpent des fers, ils les soudent, ils les assemblent, ils les poncent, ils les posent. Et c'est grosso modo, à mes yeux, ce que faisait le forgeron à son époque. Donc c'est pour ça que ce métier-là, par contre, à mes yeux, ne reviendra pas. Le métier de forgeron a été remplacé, ça c'est sûr. Le métier de ferronnier, par contre, non. Lui, il peut revenir. Et puis il revient.
Cogne sur l'enclume car la cheminée fume. Faut taper, faut souffler, forgeron t'es fatigué. Cogne sur l'enclume car demain faut fêler. Derrière chez nous, il y avait un forgeron.
Derrière chez nous, il y avait un forgeron.
Et toutes les filles le trouvaient beau garçon, lui disaient non. Faut taper, faut souffler, forgeron t'es fatigué. Cogne
soufflet sur l'enclume, car la cheminée fume. Faut taper, faut souffler, faut forgeron, t'es fatigué. Cogne sur l'enclume, car demain faut ferrer.
Cogne sur l'enclume, car demain faut ferrer.
Ne semblait pas s'occuper des jupons.
Ne semblait pas s'occuper des jupons, non.
On lui demanda pour danser des rigodons, il disait non. Faut taper, faut souffler, faut forgeron, t'es fatigué. Cogne sur l'enclume, car la cheminée fume. Faut taper, faut souffler, faut forgeron, t'es fatigué. Cogne sur l'enclume, car demain faut ferrer.
Cogne sur l'enclume, car demain faut ferrer.
C'était la chanson Le Forgeron du groupe Le Bal à l'huile. Un ferronnier, comme n'importe quel autre artiste ou artisan, a besoin d'une source d'inspiration. Laurens Fontaine ne démord pas à la règle, et sa muse n'est autre que la sacro-sainte fantaisie. Ce genre qui a fait et qui fait encore rêver beaucoup de monde, et pour certains de façon coupable, a permis la naissance d'œuvres d'art qui ont marqué leur histoire, comme celle-ci. Voyons si vous sauriez la reconnaître.
Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept aux seigneurs nains, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous.
Allez, c'était facile. C'était Le Seigneur des Anneaux, première partie, La Communauté de l'Anneau, par Peter Jackson. J'espère que vous avez trouvé, hein, parce que franchement, c'était vraiment simple. Allez, trêve de blabla, je passe à la partie suivante. Bonne écoute. Pourquoi vouloir devenir ferronnier ?
Eh bien, waouh, c'est dur, hein, c'est dur comme question ça. Pourquoi ça ? Ben, moi, j'ai pas vraiment choisi. Hein. En fait, on va en parler, mais c'était, c'était les imaginaires en fait. Hein. C'était la fantaisie, tout ça, et en fait, c'est seulement arrivé au lycée, en terminale. Je m'en souviens très bien au début de terminale que j'ai capté que on pouvait encore avoir un métier en lien avec la forge. Et parce que jusqu'à maintenant, je pensais que c'était pas un métier. Moi, j'avais une vision très, très péjorative du monde du travail, hein, grâce à l'héritage familial. Et pour moi, un travail, ça pouvait pas être agréable. Et donc, forgeron, ferronnier, coutelier, ça pouvait pas être un métier. Et ça a été une grande révélation que de comprendre que, si, ça peut être un métier. C'est pas le plus facile comme métier, c'est pas non plus facile de se faire sa place, mais il y avait quelque chose à faire. Et donc c'est pour ça en fait que je suis arrivé dedans. Ouais.
Votre style et votre patte graphique, mais métallurgique.
Ouais.
C'est beaucoup plus donc dans les motifs végétaux et aussi la vue de ce que j'ai derrière moi, animalier aussi.
Ouais, c'est ça. C'est le sauvage.
Ok.
Ouais, c'est vraiment le sauvage. Mais c'est vrai que vous posez une question intéressante et. En fait, moi, je suis convaincu que si on arrive à prendre un peu de recul sur la production artistique au début du 21e, ça commencerait même fin 20e, on se rendrait compte qu'on peut certainement mélanger énormément de productions sous l'appellation un peu vulgaire aujourd'hui, mais il ne faut pas de fantaisie. La production cinématographique, mais aussi de la BD, de la littérature, et de plus en plus de l'artisanat, peut se rejoindre dans la grande famille de la fantaisie. Je ne dis pas qu'il n'y a que de la fantaisie, parce qu'il y a par exemple aussi l'industriel qui est bien installé et que maintenant on arrive à nommer. Mais c'est depuis pas longtemps, ça fait seulement depuis les années 2000 ou 2010 là, qu'on sait qu'on arrive à mettre le terme industriel sur toute une production de musique, par exemple, de films et d'artisanat. Et je pense que le mouvement de la fantaisie, en fait, là pour l'instant c'est trop tôt, on n'arrive pas trop encore à le dire et à le pointer du doigt. Mais moi, en tout cas, pour moi, j'ai aucun doute. Hein, moi, j'ai grandi avec la fantaisie littéraire, cinématographique, jeux vidéoludiques. Et sans aucun doute, on le retrouve dans mon travail. Toute notre génération, on a grandi avec ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, on arrive sur le monde du travail, certes. Et voilà, il n'y a pas que des ploucs. Hein, et du coup, ça va changer. Ça va changer, oui. Par exemple, aujourd'hui, on n'a plus de mal à dire « je vais être coutelier, je vais être ferronnier parce que j'adore les épées ». Moi, c'était mon cas. Et du coup, je m'étais mis ça en tête il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on ne pouvait pas dire ça. C'était impossible. On nous voyait au nez, on nous disait « mais tu te crois dans ton jeu vidéo ?» Et le monde a changé parce qu'encore ce matin, il y avait un gars qui m'appelait et qui me disait « je suis en reconversion professionnelle, je veux faire des épées, je fais comment ?» Et le gars, il avait 40 ans, donc ça a vraiment changé, quoi. Ça a vraiment changé. Et c'est cool.
Et vous avez fait une épée, finalement ?
Eh ben, en fait, j'en ai pas... Alors, j'en ai fait une il y a 10 ans, qui était pas mal, mais bon, si je la revoyais aujourd'hui, elle me ferait pleurer. Et c'est au programme pour l'année prochaine. Enfin, pour cette année, maintenant.
Et donc, tout ce que vous produisez, vous faites des croquis et des schémas avant de le faire, ou vous prenez une barre de fer et vous laissez l'inspiration venir ?
Alors, je laisse très peu l'inspiration, vraiment sans croquis et sans épure. C'est vraiment très très rare quand, par exemple, j'ai des cadeaux de Noël ou cadeaux d'anniversaire à faire. Là, je procède comme ça. Par contre, dès qu'on est sur du pro, je procède toujours par un dessin. Quand je le peux, échelle 1. Donc, c'est ce qu'on appelle une épure. Et quasiment jamais sur ordinateur. Parce qu'en fait, la forge... n'est à mes yeux pas configurable pour les techniques de conception assistée par ordinateur, CAO et DAO, dessin assisté par ordinateur. Donc moi, dès que je le peux, et c'est là dans l'extrême majorité des cas, ouais, c'est vraiment à la main, sur une épure. Et donc là, j'en ai mis une derrière, justement. Donc là, vous voyez, en fait, c'est l'épure de la table qui est juste derrière vous. Et donc, j'avais la forme en tête, je savais où je voulais en venir. Je savais quelle hauteur je voulais qu'elle ait et je savais quel plateau j'allais mettre. Donc je me suis contenté de dessiner le plateau. Là, en fait, on est sur une vue en 2D de face, enfin de côté. Donc j'ai mis le plateau, donc la dalle de pierre, à la bonne hauteur. Et ensuite, j'ai laissé mon poignet parler. Et donc, quand on laisse le poignet parler, il y a une gestuelle qui s'installe et en règle générale, les courbes sont toujours bonnes. Et là, en l'occurrence, c'est une fougère, en fait, hein. Une représentation de fougère. Et ce qui est sympa avec la fougère, c'est que c'est un végétal qui reprend le nombre d'or. Et que le nombre d'or, donc c'est de la géométrie sacrée, hein, c'est ce qui est derrière toutes les formes que l'on trouve instinctivement harmonieuses, si ce n'est belle. Une fougère a son nombre d'or, les belles fougères en tout cas. Et c'est toujours amusant de dessiner une fougère à la main, de laisser vraiment son corps parler. Et de prendre les cotes ensuite et de constater que instinctivement on met le nombre d'or dans ce qu'on dessine.
Pour que les rêves prennent forme, il faut s'armer de patience et de détermination, mais pas seulement. Les outils ont une place prépondérante dans l'art de la ferronnerie, et ceci depuis des millénaires. Faisons une rapide présentation de ces objets ô combien symboliques.
Moi, j'aime bien parler de ce truc-là, parce que, enfin, de cet objet-là, de cet outil-là. Parce qu'en fait, donc la sidérurgie, elle a commencé il y a plusieurs milliers d'années maintenant, avec les premières météorites forgées à la main. Et les siècles ont passé, et les blocs en clume se sont affinés. Les forgerons de l'époque, de toutes les époques, ont ajouté leurs petites pièces, leurs petites optimisations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on travaille sur une enclume, en fait, on travaille sur un outil qui a été optimisé pendant plus de 2000 ans. Voire 3, même 4000 pour vraiment les plus anciennes. Et donc, chaque angle sert, chaque courbure a sa place. Et on est vraiment sur un outil parfait à mes yeux.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que l'enclume a vraiment une forme particulière, donc si vous pouvez nous expliquer les particularités, à quoi sert cet angle-ci?
Ouais, les trois principaux éléments, c'est la bigorne ronde, la bigorne carrée et la table au milieu. En fait, déjà, quand on a ça, on fait beaucoup. La bigorne ronde, elle est là pour faire les courbes, c'est-à-dire qu'on vient rouler son acier autour à coups de marteau. La bigorne carrée, elle va servir à faire des arêtes. C'est-à-dire que ouais, il faut que je fasse un casse dans mon acier ou que je lui imprime un angle, ça va se passer là, donc sur cette bigorne carrée. Et ensuite la table, c'est là qu'on passe encore le plus clair de notre temps, travail d'affinage ou de martelage, ouais, étirage, ouais, la table, ça c'est important. Et celle-ci en l'occurrence, c'est une enclume d'après-guerre. Et comme vous pouvez le voir, hein, quelques éclats près, bon, elle est quasiment comme neuve.
Et à quoi sert la table? Enfin, je sais pas, j'appelle ça une table,
mais ouais, ça ressemble. Ouais, c'est ça, c'est ma table de montage. Parce qu'en fait, donc là, le cœur de la tuée, c'est vraiment ici.
Okay.
En fait, c'est enclume, forge, marteau, pilon, là, et puis étau, voilà. Donc là, je passe vraiment le plus clair de mon temps ici. En revanche, une fois que j'ai fait ce travail-là, bah, il faut que je l'assemble, souvent. Et donc dans ce cas-là, ça se passe sur la table de montage avec un poste à souder. Et c'est là que je vais assembler les différentes parties, que vraiment je pousse le travail pour avoir des ouvrages terminés en fait. Parce que la partie forge, c'est la plus agréable, hein, c'est celle que tout le monde garde en tête. Mais on peut pas se contenter juste de ça, ou alors on va pas très loin et on fait des petits objets. Donc il y a souvent une méthode, une partie montage qui en découle.
Ouais. Si vous n'avez pas de marteau pilon, vous faites comment?
Et bien la tête de cerf, le buste cervidé a été forgé sans marteau pilon. Et comme vous pouvez le voir, les bois ont été faits dans une section affreusement énorme. Et donc là j'ai pris un stagiaire, j'avais pas le choix. Parce qu'en fait le marteau pilon n'était pas encore arrivé à l'atelier. Et donc j'ai pris un stagiaire, je lui ai acheté une masse. Et on s'est relayé pendant une semaine et on a forgé les bois à deux.
Ah ouais, quand même.
Mais ça a pris, en fait,
juste
je dis une semaine.
Juste avec ça.
Ouais, juste avec ça, ouais. Et on a frappé comme des malades. Mais en fait, on a commencé les bois le lundi matin à 8h30. Ils étaient terminés le jeudi soir à genre 18h. Et ensuite, la journée de vendredi, ça a été tout l'assemblage. Et donc du coup, ouais, 5 jours travaillés pour faire les bois.
Ribine, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tous ces sons d'enclume ne vous ont pas rendu totalement marteau. Avant de vous quitter sur cette blague des plus tordantes, je vous laisse sur un extrait de Lord of Iron du groupe Anti-Martikainen. Et n'oubliez pas, il n'est jamais bon de se retrouver entre le marteau et l'enclume, même sur Radio Évasion.